Alors le terme rétro gaming peut s'expliquer de plusieurs manières, mais généralement on définit ça par le fait de se replonger dans d'anciens jeux vidéo qui sont plus forcément édités aujourd'hui. Donc on va retracer globalement la période années 70 jusqu'au milieu des années 2000. Ça peut se traduire donc par du jeu pur, c'est-à-dire le fait de reprendre une console, qu'elle soit portable, de salon ou même un vieil ordinateur, ou aussi le fait de collectionner, c'est-à-dire essayer de retrouver des pièces qui ont soit marqué l'histoire, soit qui vont nous évoquer des souvenirs.
Ça existe depuis combien de temps le jeu vidéo ?
Alors le jeu vidéo tel qu'on le connaît, ça date des années 70, mais techniquement ça date des années 50. Les premiers jeux vidéo ont été développés par des scientifiques aux États-Unis au début des années 50 sur des vieux ordinateurs, les écrans c'était des écrans d'oscilloscope. Mais le jeu vidéo tel qu'on le connaît, c'est-à-dire un bien qu'on peut acheter, partager, jouer à plusieurs, qu'on retrouvait aussi à l'époque dans les cafés, dans les salles d'arcade, etc. Là, clairement, c'est les années 70, avec les premiers ordinateurs personnels, les bandes d'arcade, et voire même l'émergence de jeux électroniques et de consoles de jeux.
Et quelles ont été les grandes étapes techniques qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo ?
Alors, il y a vraiment plusieurs étapes. Les grandes étapes, c'est celles qu'on va retrouver ici dans cette galerie. C'est-à-dire que d'abord, on va voir l'explosion du jeu vidéo sur console chez soi. C'est-à-dire que jusque-là, on avait beaucoup de jeux qui étaient disponibles sur des PC, c'est-à-dire des ordinateurs personnels. Et arrive la console, c'est-à-dire que c'est une machine qui est entièrement dédiée au jeu vidéo. Ensuite, on va être plutôt sur la technique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la console, comment va évoluer le jeu vidéo ? On a eu le passage de la 2D vers la 3D, on a eu l'arrivée de nouvelles touches sur les manettes. Comme ça paraît pas très important, mais ça redéfinit complètement le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un joystick sur votre manette, vous avez possibilité d'avoir un horizon à 360 degrés autour de vous. Véritable révolution. Et ensuite, on va avoir plusieurs axes. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des acteurs qui vont tout miser sur la puissance des graphismes. C'est-à-dire que d'un côté, on va voir Microsoft et Sony, par exemple, qui essayent de pousser toujours plus loin le réalisme. L'objectif, clairement, c'est d'avoir du jeu vidéo qui se calque sur le réel. En gros, qu'on ne fasse plus la distinction entre du jeu et du cinéma, presque. Et d'un autre côté, alors je fais exprès de schématiser, hein, parce que c'est pas ça à 100%, mais dans l'esprit. Et d'un autre côté, on va avoir Nintendo qui va plutôt être sur du concept. C'est-à-dire que la Wii, clairement, on arrive sur du jeu vidéo avec du mouvement. C'est-à-dire que c'est la première fois, plus ou moins, qu'on peut jouer en se déplaçant face à son écran. Maintenant, la dernière évolution, c'est par exemple la Switch de Nintendo. L'idée, c'est que c'est à la fois une console de salon et portable. On commence sur sa partie dans le bus, dans son lit. On rentre ça dans ce qu'on appelle un dock, c'est-à-dire un support qui va amener l'image sur sa télé. Et on continue sa partie sur son salon, de manière familiale, sur la télé.
Qu'est-ce qui fait, d'après vous, le succès d'un jeu vidéo ?
Alors, il y a plusieurs éléments. Il faut savoir que le jeu vidéo, ça va être comme le cinéma ou la littérature, ça va dépendre d'énormément de critères. On va avoir, d'un côté, la réussite technique. C'est-à-dire, est-ce que le jeu est bon, d'un point de vue technique ? On va avoir des jeux qui sont techniquement mauvais, clairement, avec une mauvaise prise en main, qui ne vont pas être agréables à jouer, etc. Ensuite, est-ce que l'univers est attrayant ? Là, on va se rapprocher, clairement, de l'univers du cinéma et de la littérature, c'est-à-dire que, comme dans le cinéma et la littérature, est-ce que d'un point de vue technique c'est chouette, c'est-à-dire est-ce que l'écriture est bonne, dans le cinéma est-ce que ça va être bien tourné, et ensuite est-ce que ce qu'on me raconte est intéressant. Alors dans le jeu vidéo il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est le côté ludique, c'est-à-dire que des fois on peut faire moins d'histoire pour plus de jeux, plus d'histoire pour moins de jeux, on va pouvoir balancer ça. Autre élément, mais comme toute industrie culturelle, il y a aussi une part de marketing, c'est-à-dire qu'on a des jeux qui ne sont pas forcément toujours incroyables et qui vont très très bien marcher parce que bah derrière, il y a des gros éditeurs qui mettent beaucoup de sous. Clairement, dans le cinéma, c'est la même chose. Hein. Vous avez le succès de certains films Marvel qui mettent en scène des super-héros qui sont des fois pas toujours incroyables, mais derrière, c'est des monstres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est devenu l'industrie culturelle numéro 1 au monde. Ça a dépassé le marché de la musique et du cinéma en termes de chiffre d'affaires. Donc on est aussi sur des histoires de gros sous. Hein. Et c'est aussi intéressant de découvrir ça, on voit l'évolution du marché dans cette exposition. C'est à la fois une évolution technologique, culturelle, mais aussi une évolution d'un marché.
Du coup, avec le rétro gaming, il y a un peu une nostalgie de ce qu'il y avait au début du jeu vidéo. Est-ce que dû à ça, il y a des entreprises qui ont relancé la fabrication d'anciennes consoles ou d'anciens jeux vidéo en rapport à ça ?
Clairement, en fait, depuis quelques années, c'est quelque chose qui revient au goût du jour, mais c'est déjà ce qui s'est passé sur d'autres marchés. Par exemple, sur le marché de la musique, Il y a quelques années, on a parlé de l'émergence de nouveau du vinyle. En gros, c'est les nostalgiques du vinyle de l'époque qui se disent « Bon, bah voilà, j'ai envie de reposséder des objets que j'avais à l'époque. » Et on va retrouver ça dans plein de choses. Le nombre de cinquantenaires ou plus qui se mettent à recollectionner des peluches de Casimir, etc. Eh bien, du coup, on retrouve la même chose dans le jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, c'est les années 70. Du coup, les ados des années 70, aujourd'hui, ça fait bien longtemps qu'ils sont adultes. Mais comme le marché a continué, bah, ceux qui ont découvert le jeu vidéo dans les années 90, maintenant, deviennent adultes, etc. Et du coup, clairement, on a des éditeurs qui ont capté que c'était un nouveau marché. Ils ont vu que sur Internet et ailleurs, hein, dans les vides-greniers, dans les ventes aux enchères, on avait des jeux vidéo qui ressortaient. C'est-à-dire que des gens essayent de retrouver bah, la cartouche de Game Boy qu'ils avaient à l'époque, la console qu'ils ont eue dans les années 80 ou 90. Et du coup, Nintendo, par exemple, au cours des dernières années, ont ressorti la NES ou la Super Nintendo. C'est en gros leur première console de salon pour toucher ce public, le public des nostalgiques. Et notamment, c'est nostalgique qui ont envie de faire redécouvrir ces jeux à leurs enfants aussi. Alors, il y a d'autres acteurs qui se sont lancés là-dedans. Sony prévoit très certainement de sortir une version miniature de la PS1, donc console des années 90. On a eu une Atari miniature aussi. Sega fait de même. Bref, tout le monde commence à s'y mettre. Mais les numéros 1 dans le secteur restent Nintendo pour le moment.
L'expo, alors vous, comment est-ce que vous avez réparti, enfin structuré l'expo du coup ?
Alors ici on s'intéresse surtout à l'histoire des consoles, c'est-à-dire qu'on va commencer principalement à partir des années 70, mais la vraie période qu'on va balayer, ça va être surtout début des années 80 jusqu'au milieu des années 2000. Pourquoi ? Parce qu'au début des années 80, enfin plutôt au milieu, vers 1985, c'est l'arrivée d'un grand jeu qui va marquer toute l'histoire du jeu vidéo, le premier Mario, qui va relancer l'industrie. Il faut savoir que quelques années avant, on pensait déjà que le jeu vidéo c'était fini, ça avait connu déjà un âge d'or dans les années 70, et c'est l'arrivée de Mario sur la NES, donc la console de Nintendo, qui va relancer le marché. Donc on a des pièces d'avant cette période qui sont exposées, mais en jeu jouable, on commence avec Mario pour arriver jusqu'à la génération Wii et PS3.
Qu'est-ce qu'il y a comme type de jeu ? Vous parliez tout à l'heure de différentes catégories de jeux, vous présentez.
Alors, en jeu jouable, parce que dans l'exposition, on peut jouer, mais on peut aussi découvrir des choses sous vitrine. Mais dans les jeux qui sont jouables, on a sélectionné sur chaque génération de consoles et sur chaque console marquante de l'histoire du jeu vidéo, un jeu qui a marqué l'histoire et qui a eu un impact sur le genre par la suite. On commence typiquement avec le premier Mario, qui a défini ce qu'allait devenir par la suite le jeu de plateforme. On va aussi avoir du jeu de combat avec du Street Fighter, du jeu de tir avec du GoldenEye, du jeu de course avec Gran Turismo. Tous ces jeux sont devenus par la suite des grands classiques. À l'époque, ça a été forcément des grands succès et ils ont établi des codes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous jouez à un jeu de combat qui se joue principalement à deux, c'est-à-dire sous forme de duel, clairement, vous jouez à des jeux qui succèdent à Street Fighter 2. Quand vous jouez à un jeu de course, ils tirent leur essence de Gran Turismo. Ici, on a quelques jeux à histoire qui sont proposés, mais il faut savoir que les gens qui vont venir dans cet espace sont pas forcément là pour des heures et des heures. Du coup, on propose un petit peu de tout. Il y a des expériences solo, des expériences multijoueurs. Donc clairement, quand on va être sur du jeu de course ou du jeu de combat, là, on va être en multijoueur. Mais pour les jeux à histoire, on propose des jeux comme Kingdom Hearts, par exemple, qui mélange l'univers de Disney et de Final Fantasy, une grande licence de l'histoire du jeu vidéo. Du Zelda aussi, c'est une grande licence Nintendo. Là, on est plongé dans un univers féerique, on est dans un style un peu heroic fantasy, légende, conte, etc. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, voire même du jeu de sport avec du Wii Sport.
Les jeux, ceux qui sont présentés en jeu jouable, comment est-ce que vous les avez sélectionnés ?
Bah justement, c'est l'impact qu'ils ont eu sur l'industrie. L'idée, c'est que quand quelqu'un va se balader dans cette exposition, cette personne va soit se dire « Ah bah ça me rappelle des souvenirs ». Clairement, c'est ce qui se passe quand les gens revoient le premier Sonic sur Mega Drive, le premier Mario sur la NES. Ou bien tout simplement « Ah bah ça me rappelle tel jeu ». Et si ça rappelle tel jeu, c'est que le jeu en question a eu un impact sur le reste. Dernière chose, ce que j'ai commencé par faire, c'est que pour chaque génération, j'ai pris le top 10 des ventes de chaque console et je suis allé piocher dedans. Alors clairement, j'ai pas à chaque fois pris le premier, sinon sur toutes les consoles Nintendo, on aurait clairement un Mario à chaque fois. L'idée, c'était à la fois un jeu plus ou moins de chaque genre, donc on va retrouver tous les genres que je citais précédemment, sport, combat, plateforme, jeu de tir, jeu d'aventure, jeu d'action, mais aussi voilà, des jeux marquants qui ont un impact culturel aussi. Aujourd'hui, vous parlez de Mario, ça évoque forcément quelque chose à tout le monde. Même ma grand-mère, qui n'est pas forcément joueuse de jeux vidéo, on lui dit Mario, elle visualise ce personnage. Et du coup, tout ici, on va avoir des jeux qui ont un véritable impact culturel, qui sont devenus des véritables objets de pop culture.
Vous prévoyez, donc là, il y a l'expo. Vous prévoyez aussi, je suppose, des animations, des ateliers. Qu'est-ce que vous proposez ?
Alors, pour accompagner cette exposition, il y a toute une série d'animations. Ça va d'une conférence sur l'histoire du jeu vidéo au mois de décembre, des débats sur l'avenir du jeu vidéo, parce que l'évolution technique qu'on essaye de retranscrire dans cette exposition va continuer. C'est-à-dire que depuis les années 70, le jeu vidéo a évolué, les techniques ont évolué, les machines ont évolué. Demain, qu'est-ce qu'on aura ? Est-ce que ce sera de la réalité virtuelle ? Est-ce que ce sera guidé par des intelligences artificielles ? Est-ce que le jeu vidéo sera encore sur des machines ? C'est ça la question qui va se poser. Qu'est-ce qu'on va proposer d'autre ? Des tournois, des rencontres. On va aussi faire une petite radio jeux vidéo avec des ados qui vont animer des chroniques sur le jeu vidéo. Ça va être sous forme de podcast. Ça va durer à peu près une heure et demie. On va retrouver ça chaque mois. Bref, tout plein de choses. Tout est à retrouver sur notre site web ou dans notre brochure. Il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'on s'adresse autant aux passionnés de jeux vidéo qu'à celui qui n'y connaît rien. Tout le monde va pouvoir aller piocher quelque chose dans ces animations.
Concernant le public, qu'est-ce qui a changé ?
Bah clairement, ça a changé, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, ceux qui ont connu le jeu vidéo dans les années 70, 80 et 90, maintenant, ils ont grandi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge des joueurs, c'est 35 ans. Ce qui veut dire plus ou moins que la moitié des joueurs ont plus de 35 ans et l'autre moitié moins. Alors, c'est pas totalement vrai, parce qu'on sait que d'un point de vue mathématique, c'est pas ça, mais globalement, c'est ça. Ça s'explique de deux raisons. Comme je vous disais, les anciens joueurs qui ont grandi. Et la deuxième chose, c'est des nouveaux concepts de jeux qui ont réussi à séduire des joueurs de plus en plus âgés. Le meilleur exemple, c'est la période de la Wii et de la Nintendo DS. Clairement, avec leurs consoles en mouvement et des jeux adaptés, style entraînement cérébral du Dr Kawashima, du Sudoku, etc., Nintendo s'attaquait à un nouveau marché, c'est celui des retraités. La Wii, c'est l'arrivée des consoles de jeux dans les maisons de retraite. Et la dernière chose, mais qui est liée en fait à cette génération Wii et Nintendo DS, c'est l'arrivée des smartphones et des tablettes. En gros, on a tous du jeu vidéo dans sa poche. Moi, techniquement, ma grand-mère, quand elle joue au Sudoku, au Monopoly sur sa tablette, elle fait du jeu vidéo. C'est pas le même que moi, mais elle fait du jeu vidéo. C'est juste qu'elle n'a pas conscience d'en faire. Du coup, aujourd'hui, moyenne d'âge 35 ans, et autant de femmes que d'hommes jouent aux jeux vidéo. Alors, il y a toujours des préjugés, ça on pourrait en discuter, mais moi, je pose souvent la question à des adolescents, même à des adultes. Hein. À votre avis, quelle est la moyenne d'âge des joueurs de jeux vidéo ? On me répond la plupart du temps entre 12 et 15 ans. Et le sexe des joueurs, on me dit la plupart du temps des gars. Ça, c'est lié à deux choses. La première, c'est que le jeu vidéo, au départ, a été marketé comme quelque chose pour les garçons. Typiquement, la Game Boy s'appelle Game Boy, elle ne s'appelle pas Game Girl. Donc ça a été pensé comme un objet pour les garçons, alors que dans les faits, ça ne l'est pas du tout. Du coup, ça, c'est un impact sur les mentalités, mais pas forcément sur le marché.
Vous rêvez de quoi comme jeu vidéo pour l'année ?
Alors déjà, j'ai un premier rêve qui s'est exaucé l'année dernière avec l'arrivée de la Nintendo Switch. Ça fait 10 ans que je dis que la console idéale serait une console qui serait à la fois portable et de salon. Du coup, c'est déjà une première chose. À mon avis, ce vers quoi on tend, c'est plus d'immersion, plus du réalisme dans le sens où on reproduit à l'identique la réalité, mais on va se rapprocher de notre environnement. Moi, ce dont je rêve, c'est un jeu qui dépasserait en gros le simple stade de jeu vidéo. Quelque chose qui serait à la fois social, c'est très difficile à décrire. En gros, ce que j'aimerais, ce serait peut-être un jeu en réalité augmentée, c'est-à-dire que le jeu intégrerait mon champ de vision réel, pourquoi pas des personnages qui apparaîtraient autour de moi, et dans lequel je pourrais avoir des interactions avec d'autres joueurs. Alors Pokémon Go a déjà commencé à porter ça, mais on a toujours la contrainte de l'écran. L'écran, mine de rien, limite le champ des possibilités à un environnement qui est encadré par la taille de ce qui nous est offert, alors que dans un environnement à 360 degrés dans lequel on se trouve, là on peut imaginer une nouvelle perspective. Jouer un Zelda dans lequel je serai Link et au lieu d'être dans Hyrule, je serai dans, là ici par exemple, Quimper, et je mènerai des quêtes à l'intérieur d'un environnement dans lequel j'évolue au quotidien, ça pourrait être absolument passionnant. Ça permettrait de redécouvrir des environnements qu'on connaît déjà et de vivre des expériences partagées avec d'autres joueurs dans un univers connu, mais qu'on redécouvrirait. Thank you.